Le rayon BD, les beaux dimanches de Walton Skizix.
Your Autolite dealer presents your favorite friends from Gasoline Alley.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le Rayon BD, l'émission de France Culture entièrement consacrée à la bande dessinée, toute la bande dessinée d'hier et d'aujourd'hui. Après nous être penchés sur un monument de la bande dessinée hexagonale, Astérix, après avoir fait un tour en Suisse avec l'auteur Baladi, qui est l'invité d'honneur du Festival BDphile de Lausanne, qui s'achève ce dimanche, nous traversons aujourd'hui l'Atlantique pour la première fois pour nous intéresser à l'un des premiers chefs-d'œuvre de la bande dessinée américaine, Gasoline Alley de l'auteur Frank King, un chef-d'œuvre qui n'avait jamais ou presque été traduit en français et qui est pour cette bonne raison peut-être un peu méconnu des lecteurs français. Mais cela va changer puisque les éditions 2024 publient un magnifique recueil des plus belles pages de Gasoline Alley, un grand livre baptisé Walt and Skizix, du nom des deux personnages principaux de ses aventures. Et pour en parler, je reçois justement les fondateurs de ces éditions 2024, Olivier Bron et Simon Lieberman. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Et à vos côtés, le directeur artistique du Festival d'Angoulême, Stéphane Beaujean. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de l'une des préfaces de ce recueil, l'autre est signée Chris Ware. Et vous êtes, comme vous l'expliquez, un admirateur de l'œuvre de Frank King, dont nous parlons aujourd'hui, Walt and Skizix ou Gasoline Alley.
Yes, it's Gasoline Alley, the comic strip that's a favorite in more than 100 great newspapers. In this episode, the adventure of the spare spare, Wilmer gets spare tires confused with bowling spares and proves that, as a championship bowler, he's a better garage mechanic.
La réclame d'un feuilleton diffusé à la radio new-yorkaise en 1948 mettant en scène les personnages de Gasoline Alley, des personnages très populaires donc aux États-Unis. On a entendu que leurs histoires étaient diffusées dans plus de 100 journaux à cette époque, après la Seconde Guerre mondiale. Mais des personnages dont je disais, Stéphane Beaujean, qu'ils n'étaient pas très connus en France. On connaît mieux parmi les comics nés à la même période, c'est-à-dire aux alentours de la Première Guerre mondiale, les Cats and Yammer Kids, qu'on appelle Pim Pam Poum chez nous. On connaît mieux Little Nemo, la famille Illico, ou peut-être encore Crazy Cat de George Harriman, j'en oublie certainement. Comment est-ce que Gasoline Alley se positionne parmi ces comic strips plus célèbres chez nous? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette œuvre?
Pour être tout à fait franc avec vous, je pense que Gasoline Alley n'était pas très célèbre aux États-Unis non plus, en fait. Et que sa redécouverte, assez tardive, assez récente, elle est essentiellement due à Chris Ware, qui lui, avec quelques autres, comme Joe Matt, Seth et autres, était vraiment fan. Surtout Chris Ware, parce que son dessin, il descend beaucoup quand même de celui de Frank King. Et donc, pourquoi Frank King était un peu tombé dans l'oubli? Peut-être déjà parce que Gasoline Alley continue perpétuellement. Donc il n'y a pas un regard nostalgique, on a toujours l'impression que c'est contemporain et actuel. Peut-être aussi que les planches qui sont publiées aujourd'hui ne sont pas, je dirais, à l'image de celles qui étaient publiées à l'époque. Ça donnait une image déformée de ce qu'avait été Gasoline Alley à ses débuts. Et en fait, Gasoline Alley, ça apparaît à un moment où le comic strip se diversifie très vite, parce que c'est un genre qui a le vent en poupe. C'est dans une Amérique où il y a quand même énormément d'immigrés qui ont du mal à lire, et la presse utilise la bande dessinée comme ça, avec des héros qui parlent pas très bien. Hein, George Hammer Kid, comme vous l'avez dit, et ben, ils parlent pas très bien, c'est des immigrés allemands, ils ont un argot. Et dans ce paysage-là, alors que des bandes dessinées deviennent de plus en plus spécialisées sur l'image de la femme, l'image de ci ou de ça, Frank King, il fait son petit truc un peu quotidiennement, et je crois qu'il est poussé par son éditeur à mettre un enfant dans ce panorama de vieux célibataires qui parlent de voitures toute la journée. Et ça va perturber complètement son récit.
Oui, parce qu'au début, donc, la bande dessinée est créée en 1918, et ce sont, comme vous l'avez dit, dans un quartier un peu populaire autour d'un garage, une bande de célibataires qui parlent carburateur, automobile, on est bien dans l'Amérique du Fordisme qui arrive.
Clairement, je pense que Frank King, au début, il se dit « je vais faire une bande dessinée sur la voiture, puisque c'est à la mode ». Et puis d'ailleurs, c'est pas vraiment une bande dessinée, c'est plutôt des illustrations, ça devient une bande dessinée de strip. Et puis je pense qu'effectivement le succès doit pas être trop au rendez-vous et son éditeur doit sentir que le public féminin pourrait venir s'ajouter à ça. Et on lui demande de mettre un enfant, mais comment un célibataire peut tomber sur un enfant, c'est pas facile. Donc il a l'idée de laisser sur le bas de la porte de ce héros un orphelin un soir dont le personnage n'arrivera plus à se débarrasser. À partir de là, ils vont former un couple, hein, le papa qui se découvre et l'enfant qui grandit. Et à partir de cet événement, l'autre composante qui va devenir essentielle à la bande dessinée américaine d'une manière générale et qui se cristallise à cette époque-là, c'est la notion du temps. La saisonnalité fait partie intégrante du récit dans la presse. Et quand c'est l'hiver, les personnages vivent l'hiver. Et quand c'est l'été, il fait chaud. C'est pareil avec Friends ou je sais pas les séries aujourd'hui. Quand c'est Thanksgiving, il y a l'épisode Thanksgiving. Voilà. Et Frank King, il ajoute une donnée à cette temporalité, c'est qu'il va le faire s'écouler année après année, que les personnages vont vieillir. Et ça n'existait pas à l'époque. Et en fait, ça crée quelque chose d'assez fascinant pour le lecteur et d'assez, je dirais même, édifiant et émouvant.
Alors ce livre que vous publiez donc aux éditions 2024, Olivier Bron et Simon Liberman, s'ouvre en effet en 1921 avec la découverte par le personnage de Walt Wallet de ce petit bébé dans un berceau devant sa porte et va jusqu'en 1934. Et donc en 1934, ce personnage de Skizix, donc l'enfant, est un jeune adolescent, il a environ 13 ans.
Il a 13 ans. Ouais,
qu'est-ce qui vous a marqué la première fois? Enfin, vous, quand est-ce que vous avez découvert ces histoires de Walt and Skizix, de Gasoline Alley? Qu'est-ce qui vous a donné envie de les republier?
Je crois que la première rencontre pour nous, c'est à Angoulême en 2012, je crois. Art Spiegelman avait été invité à refaire une exposition à partir des collections du musée. Et dans ce cadre-là, donc, il avait ressorti plusieurs pages du dimanche de Gasoline Alley. Et c'est d'abord un choc esthétique, hein, avec quand même des planches d'une grande beauté. Enfin, vraiment l'envie d'en lire plus, d'en voir plus, d'en savoir un peu plus sur ce strip-là qu'on ne connaissait pas. Effectivement, bon, par intérêt personnel, depuis longtemps, on creuse dans le patrimoine européen et américain pour découvrir des strips. C'est vrai que c'est pas celui qui nous est le mieux resté. Mais bref, du coup, de ce premier choc, on tire un peu le fil et on a rencontré Peter Maresca, donc un éditeur américain, et qui avait publié donc ce recueil qu'on a traduit, qui s'appelle Walt and Skizix, et qui reprend sur la période donc 1920-1934, qui est souvent considéré comme une sorte d'âge d'or du strip, en tout cas pour ce qui est de la page du dimanche, qui reprend une sélection de 80 planches à peu près. Donc c'est extrêmement condensé, le temps passe beaucoup plus vite dans notre livre que dans le strip quotidien, évidemment, et en même temps, ça permet justement de se prendre en pleine poire cette dimension-là, qui est la dimension émotionnelle forte sur la série.
Oui, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les aventures donc de Walt and Skizix étaient publiées en strip dans la presse quotidienne, c'est-à-dire une bande de 3 ou 4
c'est
cases
ça, en noir et blanc
qui racontait jour après jour la vie de ces deux personnages et de leurs amis et de quelques autres.
Ouais, c'est ça.
Et que le dimanche, il y avait une pleine page en couleur qui s'intégrait dans la même temporalité, mais avec peut-être un rythme un peu différent, Simon Liberman.
C'est vrai que alors, cette démarche-là, qui est quand même, qui est impossible à reproduire, en fait, c'est ça qui est aussi émouvant dans Gasoline Alley. Se projeter dans la peau du lecteur de l'époque qui découvre chaque jour et vit à peu près les mêmes choses, des fois dérisoires, de se lever le matin, aller au travail ou vivre, je sais pas, enfiler le manteau de son enfant, etc. Bah, tout d'un coup, il y a une sorte de... Ça fait partie du quotidien, on se lève, on a le journal, et puis on lit ce strip. Effectivement, il y a quelque chose de terriblement émouvant, mais qui est dur, évidemment, à... On peut en recapter que des bribes, maintenant. Effectivement, donc, ce livre-là a du sens, effectivement, la sélection qu'on a reprise de l'éditeur Peter Maresca, justement, tente effectivement d'évoquer un peu cette démarche-là avec effectivement cette idée du temps qui passe. Mais il est évident que on ne pourra jamais reproduire cette démarche qui est autant une démarche éditoriale presque une sorte de performance artistique déjà pour l'époque, puisque du coup, cette démarche n'existait qu'au jour le jour à l'époque.
Alors c'est ça qui est étonnant, Stéphane Beaujean. Peut-être qu'il faut raconter un peu ce qu'il y a dans ces histoires, puisqu'au début j'ai dit le mot aventure, ça correspond pas vraiment. Walt and Skizix n'ont pas à proprement parler des aventures. On n'est pas non plus dans des planches de gags. Il n'y a pas toujours une chute à la fin de ces Sunday Pages, de ces planches traduites aux éditions 2024. Mais il y a des petites choses, comme vient de le dire Simon Liberman, un strip sur un enfant qui enfile son manteau, une planche sur Walt, donc, qui adopte peu à peu ce jeune Skizix, qui devient d'abord son tonton, puis en fait son papa, qui l'emmène découvrir la nature, qui l'emmène faire du traîneau, mais ce sont des choses très, un rythme extrêmement lent, extrêmement contemplatif.
Alors oui, c'est lent et contemplatif, mais pas que. Moi, évidemment, en précipitant comme ça une quinzaine d'années sur 80 planches, il y a une vraie angoisse aussi, une vraie tension qui se crée à la lecture du livre, qui est amplifiée par le fait que Skizik, c'est un orphelin, que Walt ne l'oublie jamais, même dans les moments d'innocence. Il suffit que l'enfant disparaisse de l'horizon pour que le père panique, comme on voit rarement quelqu'un paniquer. Il y a une vraie tension, une vraie fragilité qui est, je pourrais dire, exacerbée par ce rapport à la nature, ce rapport à la modernité, par ce rapport au monde changeant. Et donc en fait, il se passe en apparence rien, parce qu'il n'y a pas une action à proprement parler, mais il y a une tension perpétuelle qui ne laisse pas beaucoup de souffle au lecteur, je trouve, entre ce temps précipité sur 80 pages, cette angoisse que tout est fragile et que les personnes peuvent disparaître d'une seconde à l'autre et que la nature change et que le monde est oppressant et qu'il faut prendre le temps de l'observer mais qu'on ne l'a pas parce qu'il a déjà changé. Cette couverture magnifique avec les nuages, elle dit que ça, elle dit qu'il faut observer de là parce que dans deux secondes, le paysage aura changé. Et ça, c'est quelque chose que Walt essaye d'apprendre à Skizik. C'est quand même des années d'initiation. Il se passe rien, mais non, il y a un adulte qui s'attendait pas à devenir parent, qui d'un seul coup doit apprendre le monde à quelqu'un qui l'attendait pas. Et il le fait avec ses préoccupations qui sont cette angoisse du rapport au monde qui change. Moi, je trouve qu'il se passe énormément de choses, mais sur le plan émotionnel.
Absolument, mais avec ces grandes planches en particulier, il y en a plusieurs dans cette sélection, planches d'automne, où Walt emmène Skizik contempler la nature. Et là, il y a des planches presque naturalistes, avec les espèces d'arbres et de feuilles qui sont dessinées, extrêmement bien coloriées. On se demande d'ailleurs si, dans les Sunday Pages, les couleurs étaient aussi belles que celles qu'on a aujourd'hui. Peut-être que vous allez nous dire, Simon Lieberman.
La chromie, c'est un peu compliqué, un peu technique, là, mais pour faire simple, les journaux étaient dans un format un peu plus grand. L'impression varie d'une semaine à l'autre pour des raisons techniques qui nous échappent, évidemment. Et notamment la texture du papier, effectivement, ce sont des journaux qui ont vieilli en partie. Du coup, on a restauré, on a essayé un peu d'unifier tout ça. Donc, les couleurs ne sont pas exactement comme à l'origine, mais on a essayé de...
On n'a pas fait une démarche de facsimilé, exact. On essaie de nettoyer pour le rendre... Enfin, ce qu'on comprend de l'intention de la chromie de l'époque. Ce qui est sûr, c'est que la page du dimanche est beaucoup plus concentré sur la relation entre Walt et Skizik que le strip quotidien qui s'attarde sur finalement un ensemble de personnages beaucoup plus large autour de... Donc, le strip s'appelle Gasoline Alley et il y a pas mal d'habitants dans cette arrière-cour. C'est aussi pour ça d'ailleurs que le livre s'appelle pas Gasoline Alley, on est sur un...
La relation centrée de ces deux...
La relation, on centre sur la relation, ce qui est l'élément le plus fort de...
Et alors est-ce que cette angoisse du temps qui passe, cette angoisse peut-être aussi de la modernité dans une bande dessinée qui était initialement consacrée à l'automobile, donc on aurait pu croire pleine d'optimisme pour le progrès. Est-ce que c'est une angoisse de l'auteur, de Frank King? Qu'est-ce qu'on sait de cet auteur?
C'est un vrai mélange des deux parce qu'il y a à la fois vraiment souvent justement la sensation qu'il faut faire attention aux choses fugaces, que le monde qu'il a connu enfant, donc Walt, ne sera pas celui dans lequel Skizik va grandir. Il y a souvent ce genre de réflexion-là, comme ça. Et en même temps, il y a aussi une vraie fascination sur la modernité. C'est vrai que le strip parle au début de la voiture comme d'un superbe outil d'émancipation. Donc c'est souvent des promenades, des parties de campagne, des parties de baignade et tout ça. Et la voiture est assez souvent présente. C'est vrai qu'ils partent le week-end et ils font 500 bornes en voiture pour visiter le pays.
Et ils contemplent aussi l'Amérique dans sa diversité, dans ses paysages. C'est assez patriotique, on peut dire. Quelquefois, ils survolent aussi les paysages en tapis volant ou avec des bottes de 7 lieues.
Ça correspond aussi à une période où le tourisme aux États-Unis se développe pour la classe moyenne. C'est lié d'ailleurs à la voiture directement. Tout d'un coup, ces classes-là se mettent à voyager et ils voyagent aux États-Unis. Donc le strip accompagne ce mouvement de société-là. Mais après, il y a aussi une vraie phase. Enfin, il y a des planches avec la radio, avec le télégraphe. Il y a un truc très excité aussi chez Frank King sur la modernité qui arrive. Et c'est assez... les deux discours avancent en parallèle. Ça l'empêche pas vraiment de... À un moment, ça se termine sur une planche qui dit « Mais dans 50 ans, il n'y aura plus que des places de parking dans le pays. » Et puis, on sent bien qu'il le déplore. Enfin, il y a aussi des pages où il rêve de revenir 50 ans, 100 ans en arrière, comme ça. Et manifestement, dans sa vie, de ce qu'on en a lu, ça avait l'air d'être une double comme sa personnalité qui était la sienne.
Alors Stéphane Beaujean, je l'ai dit, vous signez l'une des deux préfaces de ce livre et l'autre est signée Chris Ware. Vous nous avez dit à quel point Chris Ware avait joué un rôle dans la redécouverte de ces personnages de Walt and Skizik. C'est dans ce comics de Gasoline Alley. Je cite une phrase qui est mise d'ailleurs sur la quatrième de couverture de ce livre édité par les éditions 2024. Gasoline Alley peut prétendre au titre d'œuvre la plus personnelle, la plus humaine et sincèrement géniale de toute l'histoire de la bande dessinée américaine. Évidemment, quand c'est Chris Ware qui dit ça, ça a du poids, parce que c'est quelqu'un de, on va pas faire l'émission sur lui, mais de très important. Et je voudrais quand même qu'on écoute Chris Ware quelques minutes. C'était au micro de Mathieu Conquet sur France Culture.
Je veux que mes bandes dessinées soient lues comme des textes. Hein. Je veux pas que ce soit regardé comme des images. C'est un état d'esprit très très différent quand on lit des bandes dessinées et quand on regarde des peintures, par exemple. Hein. Et c'est peut-être la manière aussi dont les adultes expérimentent le monde. Hein. On ne le regarde plus, on le réduit le monde visuellement de manière à ce qu'on puisse y naviguer. Mais qu'en même temps, je pense que ça contribue à ce sentiment qu'on a du temps qui passe de plus en plus vite au fur et à mesure qu'on vieillit, hein, et ça nous fait rater plein de choses. Et d'une certaine manière, on peut dire que la bande dessinée essaie de dépasser certaines des limites que le langage met sur notre vision du monde, hein, et de remplacer ça par des images. En tout cas, c'est ce que j'espère.
France Culture, le rayon BD, Victor Massé de l'Épinay.
Stéphane Beaujean, Chris Ware ne parle pas de Gasoline Alley, mais l'accélération du temps, le regard enfantin qui change, la réduction de l'espace par le regard, tout ça, c'est pour ces raisons-là, pour ces motifs que Gasoline Alley l'intéresse au plus haut point. C'est ça qu'il trouve et qu'il étudie dans cette bande dessinée.
Probablement, en tout cas, c'est sûr qu'il est touché lui-même par ces sensations, qu'il essaie de les exprimer lui-même. Mais ça ne s'arrête pas à ça. On peut dire que d'une certaine manière, il a repris un peu la gamme colorée, une certaine manière de dépeindre la nature. Et évidemment, il a un rapport au temps depuis le début. Hein. Acme Novelty, ça se passe sur 3 générations. Enfin, le Jimmy Corrigan, ça se passe sur 3 générations. Si vous prenez Building Stories, là aussi, c'est une nouvelle approche du temps et de son passage qui est atomisée à travers le regard de plusieurs personnages. Enfin, la question de la captation du monde, de sa représentation, de la place du regardant et du temps auquel est soumis ce regardant, c'est au centre de toute l'écriture de Chris Ware. Mais lui, il l'a postmodernisé. C'est un auteur d'aujourd'hui. Frank King, il y est allé de manière instinctive et je pense sans autre ambition que de raconter un récit dans lequel ses angoisses ont naturellement nourri sa plume. C'est assez différent comme approche, mais effectivement, ils sont tous les deux assez... on peut retrouver les problématiques dans les deux œuvres.
Alors sans doute si... Simon Lieberman.
Oui, non. Enfin, là, je rebondis juste effectivement sur Chris Ware. Bon, on est des grands fans aussi de Chris Ware, Olivier et moi. Il y a une lecture qui est pas neutre en fait. Notre réception aussi de Walt et Skizik, je pense, elle est forcément influencée par notre lecture de Jimmy Corrigan. Où effectivement, il y a cet âge d'or qui est très prenant chez Chris Ware dans toutes ses œuvres. Et c'est vrai que on a l'impression de rentrer dans une justement dans un univers qui est un peu entreaperçu, qui est un peu les coulisses de Jimmy Corrigan. Et c'est vrai que c'est un peu le pendant. Enfin, moi, ça me donne cette impression. C'est vrai que Chris Ware a prolongé. C'est le moment où cet univers très mignon de beaux paysages aux États-Unis dérape dans des univers de parking et de motels.
Alors évidemment, on lit aujourd'hui Gasoline Alley avec, comme vous le disiez, tout ce qui a suivi. Et si ça sert de matrice à Jimmy Corrigan, en particulier de Chris Ware, on voit aussi, quand on a un œil qui a lu ce qui suivait, plein de choses qui ont été reprises. On peut voir des choses qui ont été reprises par Hergé. Je pense par exemple à ces voitures vues en contre-plongée, par l'avant avec les roues ovales pour exprimer la vitesse. Tout ça, c'est des choses on se dit ce sont des trouvailles, est-ce que ce sont des emprunts, des... on ne sait pas, mais on voit du Kikeflup aussi, certains gags de Kikeflup qui sont déjà là ou préfigurés. J'ai vu des choses de Peyot, des Schtroumpfs, on voit aussi Calvin et Hobbes dans cette espèce de dissertation dans la nature qui peut déraper. Est-ce que c'est une façon aussi dont il faut lire Gasoline Alley? Est-ce que vous voyez encore d'autres choses, Stéphane Beaujean, avec votre œil?
Alors moi, je suis pas certain que Hergé ou Peyot aient eu connaissance de Gasoline Alley, parce que très très sincèrement, déjà, c'était pas des grands lecteurs de BD. Je crois que dans les grands génies de cette époque, il y a plus ou moins que Maurice, qui était un érudit. Et puis, non, je pense qu'en fait, c'est tout un tas de conventions de dessin auxquelles tout le monde aboutit naturellement, sans vraiment, de manière instinctive, parce que c'est les solutions qui existent en bande dessinée. Et il y en a pas, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en bande dessinée, mais c'est pas infini. En revanche, sur Calvin Hobbes, je vous rejoins totalement. Je pense que ce qu'apporte Frank King à la grammaire du comic strip à cette époque-là, c'est il appuie sur quelque chose qui est encore sous-jacent à cette époque, c'est le côté bucolique, le rapport à la nature, à la fragilité qu'elle nous renvoie, et à cette fragilité qui est mise en rapport à un temps qui défile quotidiennement dans un journal, et encore plus le dimanche. Et c'est vrai que quand j'ai vu Frank King, moi, la première fois, ce que j'y ai vu, c'est le germe de Peanuts, le germe de Calvin et Hobbes, le germe du comic strip mélancolique à une époque où, en fait, il se voulait soit plutôt dans l'énergie, la bêtise, le rire, ou parfois la démesure graphique à la Little Nemo. Et je crois que cette route qui s'ouvre à ce moment-là vers le comic strip quotidien, bucolique, un peu mélancolique, un peu en dialogue, un peu compliqué avec le monde, c'est à ce moment-là qu'il naît dans la bande dessinée américaine.
There's one car that takes you anywhere you want to go. The Model T. Strong, sturdy, with a will of its own.
Alors Olivier Bron, il y a des choses comme ça qui infusent, qui sont des solutions instinctives, comme disait Stéphane Beaujean. Il y a aussi d'autres choses qui sont extrêmement modernes, pourrait-on dire, dans Waltenski's X, des jeux avec les codes de la bande dessinée. Quand même déjà, peut-être que c'était pas intellectualisé, mais quand un personnage se reflète dans l'eau et que la bulle se reflète elle aussi, comme si elle avait une matérialité, qu'elle se reflète à l'envers et qu'il faut retourner, ou quand, en particulier, là on va penser à Fred et à Philémon, on a des décors qui sont une pleine page, qui sont entièrement découpés en planches. Et les personnages se promènent.
Évoluent dans un seul et même décor, comme ça.
Voilà, avec le regard qui doit. Donc ça fait penser aux planches les plus célèbres de Fred, évidemment. Est-ce qu'il y a quand même une réflexion sur les codes de la bande dessinée, sur la matérialité de la bulle, sur la case, sur le rythme avec lequel l'œil parcourt une page de bande dessinée?
Alors après, c'est marrant parce que du coup, là, nous, on republie quasiment une quinzaine d'années de travail quotidien. Et ce genre de jeu apparaît plutôt dans la deuxième moitié du livre, même plus précisément à partir du dernier tiers. C'est
très fréquent. 30,
ouais. Je crois qu'il y a logiquement aussi
une envie de s'amuser.
Et globalement, ouais, une maîtrise de l'outil bande dessinée qui se perfectionne. Il se prête souvent à ce genre de jeu, ouais. Et parfois sur plusieurs semaines en particulier, il y a une séquence comme ça où une maison se construit. On a d'abord le décor des fondations dans lesquelles les gamins jouent. Donc effectivement, le décor est intégralement dessiné sur la planche, il est découpé en 9 cases, et les personnages se promènent dans le même décor au gré des cases. Puis la semaine d'après, les fondations sont posées, on a une sorte de squelette de maison qui apparaît, des dialogues et des scénettes avec les ouvriers, et la maison se termine la troisième semaine. Je crois qu'effectivement, ça faisait manifestement partie de ces réflexes de travail. Il y a aussi, effectivement, vous parliez des reflets dans l'eau, mais il y a aussi une scène où il descend en Chine, il traverse comme ça, il creuse, et c'est pareil, quand il est de l'autre côté de la Terre, tout se retourne.
C'est celle-là qui me faisait penser à Kikeflup, mais lui, il va que jusqu'en Angleterre, et puis il va pas à l'envers, mais le tunnel qui va de l'autre côté de la mer ou de l'autre côté de la Terre.
Et il s'amuse assez souvent avec ça. De toute façon, donc le strip quotidien est beaucoup plus dans la narration. Tous les jours, il raconte un petit bout de vie comme ça sur cette allée et ses habitants. Le dimanche, c'est vraiment l'occasion d'une récréation graphique pour lui. Le format, certes, mais la couleur aussi. Il y a une gamme couleur qui est magnifique. Et puis, on sent chez Frank King un vrai plaisir de dessin, une vraie envie d'investir la bande dessinée, d'investir le dessin. Année après année, bah plus il est fort et plus ça explose, quoi.
Alors c'est vrai qu'on a donc là 13 ans condensé en quelques pages alors que c'était une bande dessinée quotidienne. Il y a pas, et on l'a dit, les personnages vieillissent au fur et à mesure. On voit par exemple l'arrivée du petit frère de Skizix, puisque Walt, dans les pages quotidiennes, se marie, a des enfants. Alors là, on devine qu'il a eu un petit frère, mais les lecteurs voyaient ça au fur et à mesure. Et on sait après, j'ai lu dans quelques articles sur la question, que Skizix va être par exemple mobilisé en 1900, enfin, pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est un jeune adulte. Est-ce que, Simon Lieberman, il y a une suite qui est prévue? Est-ce qu'on va savoir? Parce qu'on a envie quand même de savoir ce qui arrive à ces personnages.
On en parle souvent. C'est vrai qu'il y a...
Rien n'a été fait encore aux États-Unis.
Rien n'a été fait, voilà. Et c'est vrai qu'il faudrait déjà, nous, qu'on puisse avoir accès à ce matériel-là, qui n'est pas accessible facilement, en tout cas.
Stéphane Beaujean.
En fait, il ne le savait pas, mais en fait, j'ai toute la collection jusqu'en 1951. Chez moi, en fait.
Puis ce qui la rend plus accessible.
Ce qui la rend désormais plus accessible.
Sunday Pages et Strip Quotidien.
J'ai pas les strips, j'ai tous les Sunday de 1920. J'ai pas les tout premiers, mais 1925 à 1951, je crois.
51, et Frank King s'arrête en 1959.
Alors en fait, ouais, il arrête la Sunday en 51 et le Strip Quotidien en 59.
En fait, j'ai tous les Sunday de Frank King. Je les ai rachetés à un auteur américain qui avait tout collectionné, qui à un moment avait besoin d'argent et qui savait que j'aimais beaucoup et qui me les a proposés. En fait.
Donc, hors micro, la conversation va continuer. Il va y avoir un projet de livre qui va être en France cette fois-ci, qui sera traduit aux États-Unis. C'est bien ça?
On peut en rêver. En tout cas, c'est sûr qu'on en tant que lecteur, on a envie de prolonger aussi, voir jusqu'où il grandit. Alors, c'est vrai que, bon, graphiquement, en tout cas, moi, de ce qu'on en a vu, le strip a évolué, mais je serais curieux quand même de regarder, de lire jusqu'à présent. Je sais que donc Walt est toujours vivant, il a 115 ans, personne n'ose le faire mourir, alors que la série est reprise, mais pas mal d'autres personnages sont morts dans les années 80, début des années 2000.
Ah, j'avais lu qu'il était mort.
En fait, moi je pensais qu'il était mort, mais comme je me suis arrêté en 51, et que dans mes discussions on m'avait dit qu'il était mort, j'ai repris, mais en fait non, apparemment il est encore vivant.
Et bon. Skizix est nonagénaire, enfin...
Ouais. Eh ben, Walt and Skizix, en tout cas, pour les planches du dimanche de 1921 à 1934, les plus belles planches de Frank King, c'est chez 2024 et ça vient de paraître. Chez 2024, il y a beaucoup d'autres nouveautés. Enfin, peut-être qu'il faut en citer deux pour cette rentrée. Dans la collection 4048, qui est la collection de livres pour la jeunesse, de livres pour les enfants. Le Roi de la Lune, de Bérangère Cournu et Donatien Marie. Magnifique. Et puis, dans quelques jours, le deuxième tome des aventures de Jim Curious. Après avoir voyagé au fond des océans, il se plonge dans la jungle, Jim Curious, qu'on doit lire avec des lunettes 3D, Simon Lieberman. Et c'est de Mathias Picard.
Exactement. Voilà, c'est la suite, et c'est toujours aussi incroyable.
Bon, et Stéphane Beaujean, Angoulême, bon, on en reparlera évidemment d'ici le mois de janvier, tout se prépare bien.
Ouais, c'est bien. Enfin, ça avance.
Bon, et bien alors, on va se quitter avec un morceau de 1937 qui chante les mérites de la vaillante Ford T. Ça s'appelle My Old Lizzie par Jazz Gillum.
You can have your VE, you can have your Lincoln too. Give me my old Lizzie, I know what she will do.
Le Rayon BD, c'est terminé pour aujourd'hui. L'émission était comme d'habitude préparée avec Pascaline Bonnet, Thomas Duterre était à la réalisation et Pierrick Monsigny à la technique. La semaine prochaine, nous parlerons des ponts entre bande dessinée et cinéma avec Mathieu Sapin et Émilie Gleason. Mais dans quelques instants sur France Culture, vous avez rendez-vous avec Aurélie Luneau pour le magazine de l'environnement de Cause à Effet.